Bonjour et bienvenue dans les entrevues de Mel, l'émission qui donne la parole à des personnes au parcours hors du commun et qui partage le témoignage de personnes extraordinaires. Salut Patrick.
Salut Mel.
Alors là, on termine ce premier volet de 10 émissions bientôt.
Et ça, ouais, ça passe vite.
Ça passe à une vitesse éclair.
C'est incroyable.
En fait. Là, tu nous as bien éclairé tout le long des émissions sur le parcours d'un alcoolodépendant, sur la descente aux enfers. Là, on est vraiment sur la période de soins depuis l'émission 8. Je voudrais rappeler quand même, un petit rappel, que l'arrêt du produit, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Faut surtout être accompagné, c'est vital, parce que ça peut être dangereux d'arrêter d'un coup. Après vient la stabilisation. La post-cure sert à retrouver les ressources que l'on perd à cause du toxique et à reprendre sa dignité, à reprendre une temporalité, à réapprendre à vivre en fait. On comprend en t'écoutant que c'est pas si simple, que la rechute fait partie souvent du parcours et que être bien accompagné, c'est important. Toi, tu as été accompagné par des soignants qui ont été vraiment des petites étoiles sur ton parcours et qui ont été très très importants pour toi. C'est important, tu peux conseiller ça à ceux qui nous écoutent et qui sont malades d'alcool ou qui sont addicts, de bien choisir ses médecins, ses accompagnants ou vraiment prendre soin de faire ça.
Eh bien écoute, je vais te répondre simplement, le parcours de soins, on ne choisit pas les gens qu'on va croiser, d'accord ? Et par contre, c'est effectivement très important de souligner que dans le parcours de soins, on va rencontrer des gens avec qui on va trouver une affinité. Et je vais élaborer une réflexion pour répondre à cette question qui est plus qu'importante parce que c'est un petit peu l'essence même du soin, c'est la rencontre, c'est la relation. Donc on a dans l'addictologie aujourd'hui, comme dans beaucoup de prises en charge médicales, on a des équipes pluridisciplinaires. Les équipes pluridisciplinaires, elles se composent en addictologie directement par un addictologue, un psychiatre, un médecin généraliste et une psychologue par exemple. Un ou une, évidemment, pour l'auditeur, pour ceux qui nous écoutent, je peux parler au féminin ou au masculin en fonction du médecin en question, dans la mesure où, justement, j'ai mon histoire, j'ai mon passé, et effectivement, moi, j'ai plutôt rencontré une psychologue, mais on s'en fout, l'essentiel, c'est de parler des titres des gens qui vous accompagnent. L'équipe pluridisciplinaire, elle est composée de ces quatre personnes, là, principales en addictologie. Elles sont principales parce que c'est le titre, c'est-à-dire que le médecin, l'addictologue, le psychiatre et le psychologue, c'est les soignants, c'est les patrons du service de soins, c'est eux qui décident de tout, en fait, dans la prise en charge. Et là où c'est très important de souligner que dans la prise en charge en addictologie, l'équipe pluridisciplinaire, ça n'est pas que ça. Une équipe pluridisciplinaire, je ne sais pas si on en a déjà parlé tellement c'est un sujet qui est récurrent dans mes propos à droite à gauche.
Si, c'est important.
Voilà. Oui, effectivement. Mais l'équipe pluridisciplinaire en addictologie, c'est 30 personnes en réalité.
Oui.
Et c'est 30
tout
personnes.
Un staff.
Exactement. En fait, c'est une hôtellerie.
C'est
ça aussi dans mon parcours de soins qui est assez poignant pour moi personnellement. C'est que aujourd'hui, je transpose le soin à l'hôtellerie et restauration, d'où le métier que je fais, mais on en parlera sans doute plus tard. Aujourd'hui de qui se rapproche de l'éducation spécialisée avec hébergement, mais en fait on parle d'une équipe avec 30 personnes.
C'est ça.
Et les 30 personnes, pour faire une liste non exhaustive aux personnes qui nous écoutent, elle est du médecin, le psychiatre, le psychologue, les aides-soignantes, l'infirmier, mais également toutes les personnes liées à l'hôtellerie, c'est-à-dire les femmes de chambre, le cuisinier. On peut repasser dans les bureaux avec la responsable administrative, l'assistante sociale, la secrétaire médicale, etc. etc. Et effectivement, dans toutes ces personnes-là, il y a des gens qui ont compté dans mon parcours,
oui,
effectivement.
Oui,
et qui aujourd'hui constituent un peu une famille pour moi.
C'est ça. Moi, je suis allée dans la rue, comme
ouais,
d'habitude, faire les micro-trottoirs. Et j'ai demandé aux personnes que j'ai croisées, je leur ai situé le contexte, où on en était dans les émissions, dans le récit de ton parcours. Et je leur ai demandé de te poser une question. Voilà. Donc, on va écouter ces micro-trottoirs et puis on en parle après.
Allez.
Allez, c'est parti.
Pour savoir s'il était en face de vous, donc là on traite du soin, s'il était en face de vous, vous auriez quelles questions à lui poser pour cette période-là ?
Qu'est-ce qui l'a fait se décider à arrêter totalement ? C'est pas des processus faciles. Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic qui a fait qu'il s'est décidé, non là je ne veux plus ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rechutent, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à réaliser potentiellement l'impact, et que ce soit sur eux ou sur les autres. Et je serais assez intéressée effectivement de savoir ce qu'il a décidé au final, de se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible dans sa situation. Ça m'intéresserait beaucoup. Et en deuxième temps, ce qui l'a le plus aidé également, parce que vu que c'est pas un chemin qui se fait en ligne droite, quelles ont été les choses qui l'ont le plus aidé, mais également s'il a des proches, quelles ont été les choses qui ont été le plus importantes pour lui de recevoir en soutien, et qu'est-ce qu'il aurait préféré qu'il ne se soit pas fait, ou les choses à éviter également.
D'accord.
Parce que si justement il y a des gens qui peuvent aider, c'est des fois... C'est bien d'avoir des informations là-dessus.
L'enfer est pavé de bonnes intentions.
Exactement.
Voilà, c'est ça, on veut aider, mais c'est l'enfer.
Exactement. Et c'est de quelqu'un qui effectivement a réussi à rester potentiellement sobre pendant très longtemps, je pense que c'est bien de pouvoir l'entendre de vive foi. Ça m'intéresserait beaucoup.
Ok, super. Et vous ?
Elle a tout dit.
Elle a tout dit. Elle est merveilleuse, c'est votre fille ?
Non, ma petite fille.
Oh, ben. Elle est encore plus merveilleuse.
Les soins, je sais pas trop. Il y a des soins particuliers avec ça.
Oui, cure, post-cure.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est
très
cadré,
hein,
c'est
ouais,
cure.
C'est ça.
Ouais,
pas se concentrer sur autre chose.
Mmh, oui.
Ça dépend de la situation de vie.
Aussi. Et puis tout réapprendre.
Bah ouais. Ça m'étonne pas du tout.
Tout réapprendre.
Ça m'étonne pas du tout.
Ouais, ça dépend de la situation de la personne.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est quelqu'un de la rue.
Non, mais c'est un schéma en fait. On est toujours dans le même schéma, quoi. Donc il faut changer le chemin de vie.
Oui.
Autrement, tu retombes.
Il faut changer de schéma de vie. Vous.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais. Ouais.
Okay. Et le rythme.
Ouais, ouais, et c'est le schéma complet.
Le rythme, le rythme et le schéma.
Du matin au soir. Ouais.
C'est ça. Merci beaucoup.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Vos prénoms ?
Marek et Manu.
Moi, j'ai ce mécanisme-là. En soirée, je bois un seul verre. Par contre, je dis à tout le monde que c'est mon premier verre. Pas de souci là-dessus, mais.
D'accord.
Je bois un seul verre. Après soirée.
C'est pris comment ?
Bah,
parce qu'on parlait un peu de pression sociale.
Je suis juste celle qui boit pas particulièrement.
Ouais, dans notre entourage, ça va. Y a pas mal de personnes qui boivent pas et c'est ok.
Justement, j'ai une discussion avec un ami à moi la dernière fois qui me disait limite, moi je me pose des questions quand je vois que tu prends un sirop de violette au bar et que nous on a tous une bière, et il m'a dit ça me fait me dire ah, elle est super bien dans sa vie, alors que pas forcément, enfin, mais juste dans sa tête c'est un truc hyper sain de elle a pas besoin de boire un coup pour être avec nous, là elle s'éclate même si elle va pas avoir un petit coup dans le nez, quoi.
C'est intéressant.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vos prénoms ?
Mélanie.
C'est génial.
Et Nathanaël.
Ok. Ben, merci beaucoup.
Merci
Mélanie.
Beaucoup.
Merci Nathanaël.
Bonne journée.
Bonne journée.
On
peut se parler sans que je travaille à la radio.
C'est vrai.
Moi, j'adore parler avec les gens.
C'est vrai.
Et j'ai
moi
pas
aussi,
mon tascam à la
je
main.
Je parle.
Mais j'ai vu.
Allez, posez-moi vos questions.
Mon émission traite de l'alcoolisme.
Ah, ok.
Ouais.
Allez-y.
Et là, je reçois depuis quand même pas mal de temps une personne qui témoigne de sa descente aux enfers depuis le mois de septembre, on y est.
Okay.
Et là, en ce moment, on traite du soin, parce que ça fait 11 ans qu'il a piscine, hein, quand même.
Waouh. Bah, chapeau.
Ouais.
Je dis bravo.
Ouais. 11 ans d'abstinence. Total. Et là, du coup, on traite du soin et j'aime bien aller dans la rue, savoir ce que les personnes en pensent ou s'ils ont une question à poser. Si vous l'avez, il est en face de vous. On traite du soin. Quelle question vous allez lui poser sur ce
alors,
sujet ?
Alors, j'aurais pas une question à lui poser. Juste que j'ai été barman et serveuse pendant pas mal d'années. Je sais que c'est ce que c'est que être alcoolique, etc. Moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais pu, voilà. J'avais la cigarette, je me suis arrêtée aussi d'ailleurs. Bravo, chapeau, parce que c'est, pour moi, c'est une véritable drogue. Et puis, c'est vraiment un état de manque qui est vraiment absolu, avec beaucoup de complexité derrière et tout ça. Et que je pense qu'il faut avoir vraiment une force de vie à l'intérieur pour avoir envie de péter ce truc-là. Et du coup, moi, je dis juste chapeau, accrochez-vous, la vie est belle. Et ouais, mais carrément.
Je dis sur la vie belle.
Je veux dire, c'est, je pense que c'est... Une des substances les plus toxiques qu'il puisse avoir et dont on a vraiment du mal à se défaire parce qu'il y en a partout, machin, nanana. Et qu'il faut avoir une sacrée force de caractère, un sacré envie de vivre, etc. Et quand on y arrive, et ben, moi je me dis que tout est gagné, et que, enfin tout est gagné, voilà, il ne faut pas reprendre le verre, machin, nanana. Mais tout est. Voilà. C'est waouh, chapeau, vraiment
super.
Chapeau.
Super.
J'ai pas d'autres questions à vous poser. juste, je sais pas, je suis bloquée sur les questions.
Mais c'est chouette. Déjà.
Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de dire parce que je connais des gens qui ont fait des cures et que à quel point ça peut être souffrant, ça peut être machin, difficile, etc. Et on a besoin d'entendre qu'il y a aussi des gens qui y arrivent et qui continuent. Parce que nous, ça nous donne aussi un bel exemple pour pouvoir s'arrêter de fumer, de machin, de ceci, de cela.
Ouais.
Et que de nous dire que c'est possible, quoi.
C'est
donc, merci à cette personne d'être là.
Génial. Il s'appelle Patrick.
Merci à toi, Patrick. Je te souhaite que de vivre du bonheur, de la joie. On sait tous que voilà, la vie, elle est belle, mais parfois, voilà, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a machin. Mais quand on a cette force-là de vie, il faut pas hésiter, profite, vis à plein, à fond, et que du bonheur, du bonheur, du bonheur, du bonheur. Comme on dit, je veux du soleil, je te souhaite que du bonheur.
C'est ça, ton prénom. Tu t'appelles
Sadia.
Sadia,
voilà.
Merci beaucoup.
S'il était en face de vous, quelles questions vous lui poseriez?
Est-ce que tu as des idées de questions, toi?
Plein, mais après.
Oui,
vas-y. Quel a été le déclic pour se faire soigner? Quel a été le déclic pour y arriver? Quelle a été la réaction de son entourage et qu'est-ce qui a le plus participé au fait qu'il y arrive? Est-ce que les gens ont eu des réactions plutôt compatissante et est-ce que ça l'a aidé? Est-ce que plutôt au contraire les gens ont été plutôt difficiles, plutôt dans le jugement, et est-ce que justement c'est ce jugement là qui a été pour lui plus difficile à vivre et qui a été le déclic? Voilà, je sais pas.
C'est pas mal, je savais que tu aurais des choses, des questions à poser. C'est vrai que c'est intéressant. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le. Concrètement avec le soin ou pas, mais je me demande si du coup de ce fait il sent toujours aujourd'hui, même après 11 ans, peut-être du jugement chez certaines personnes, du jugement ou de la compassion, et disons comment il perçoit le regard des gens encore aujourd'hui.
Ouais, c'est intéressant ça.
Est-ce qu'il assume avoir été, est-ce qu'il assume toujours, est-ce qu'il s'en sert de force, ou au contraire est-ce que c'est toujours un combat qu'il a du mal à livrer aujourd'hui, voilà.
Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Alors.
Bien alors.
Moi j'en fais dedans.
Pas mal. Non, moi j'ai bois de l'alcool. Hein. Ouais, bois de l'alcool. Ouais.
Ouais, ça fait un. Lui il peut plus boire d'alcool. Hein. Il s'est sorti de la maladie, ça fait 11 ans qu'il est abstinent.
Ça donne un mot à notre radio, c'est très gay.
C'était très gay.
En plus, on parle dépression.
C'est génial, quoi. Ça fait 11 ans.
Vous enregistrez plus tout à l'heure, parce que.
Alors, oui, j'enregistre.
Gros dossier, là.
Mais oui, j'aime bien, justement,
ouais,
j'enregistre
tous les refs.
Donc, ça fait 11 ans qu'il ne boit plus une goutte d'alcool. S'il reboit, il meurt.
Ouais.
De toute façon, ça c'est clair. Et là, on est sur la période du soin. Et s'il était en face de vous, vous lui poseriez quelle question, par exemple?
C'est quoi
Non mais j'allais dire c'est quoi qui l'a fait arrêter, mais la maladie du coup.
Bah oui, c'est quoi qui l'a fait arrêter?
C'est la maladie.
Ouais.
Oui. C'est quoi qui l'a aidé à arrêter?
Ouais.
J'avais pas le choix.
J'avais pas le choix.
Bah non, parce que tu peux ne pas avoir le choix.
Il y en a qui ont pas le choix, qui rechutent quand même, qui finissent de mourir par cirrhose.
Tu peux avoir une cirrhose et
cancer. Cancer du foie. Il y a un nombre incalculable de maladies liées à l'alcool.
C'était quoi son débit d'alcool avant qu'il arrête de boire?
Il était à 2... je ne sais plus, à chaque fois j'oublie, mais il était pas loin de 3 grammes par litre de sang.
Tous les jours?
Ouais. Ah ouais.
Et il fait toujours rien.
Ah ouais.
Ah ouais?
Ouais, en vrai.
Ah, du coup,
un vrai picolo.
Ouais. Ouais, c'est quoi ces conseils pour arrêter, mais dans la longueur, quoi? Parce que arrêter sur le moment, oui, mais dans la longueur, comment faire pour pas rechuter, quoi?
Ouais. Ça, c'est intéressant. Parce que quand on est à 3 grammes quotidiennement, pratiquement, quand on est à pratiquement 3 grammes au quotidien, ben, on fait une abstinence, ouais, comment on fait.
Savoir aussi s'il n'a pas eu des maladies liées à ça. Parce qu'il y a des délires très loin.
Il y a beaucoup de chance.
Ouais.
Et non, comment il vit sa vie sans alcool maintenant?
Ouais, c'est intéressant.
Moi aussi.
Vous avez beaucoup parlé au début.
Moi, j'ai pas trop de questions, ça m'a donné envie de boire. J'ai soif, j'ai envie de boire une bière.
Ah, les sales gosses.
J'ai pas envie de lui poser de questions. Je lui ai dit bon courage, monsieur.
Il avait une famille, tout ça, ou pas? Il a gardé sa famille?
Oula, ça, c'est justement, c'est une autre question. C'est une question intéressante.
Ouais, savoir comment ça s'est passé. S'il est toujours avec sa famille, savoir comment c'est maintenant. Et comment c'était avant? Et
s'il est plus... changé.
Ouais, voilà. Mm-hmm. Et s'il est plus avec sa famille, pourquoi? Et c'est quoi ses relations qu'il a aujourd'hui avec sa famille?
Mm-hmm. Est-ce que le sport l'aide?
Ouais.
Et c'est quoi comme passe-temps aussi, d'ailleurs? Parce que vu qu'il passe son temps à boire, qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
Ouais, c'est le plus dur,
ça. Ouais, bah oui, c'est ça le truc.
C'est le plus dur parce que nous on est peut-être pas dans le stade alcoolique, mais quand on bouge, on boit.
Je pense que le sport, c'est
rare qu'on passe
une bonne thérapie, hein, je pense.
C'est ça. Ben merci, messieurs. Beau prénom.
Merci à vous.
Moi, c'est Nicolas.
Bonsoir. Très bien.
Lamine.
Eh bien, enchanté. Et puis, merci d'avoir répondu à mes questions.
Pas de soucis. Avec plaisir.
Bonne journée.
Ouais. Merci.
Ça servait à quelque chose,
non? Voilà, les micro-trottoirs, c'était super riche. Très très intéressant. Il y a beaucoup la question des proches, de leur impact, de leur attitude, de leur réaction, de la famille, comment elle peut entourer un malade d'alcool, est-ce qu'elle est accueillie. Enfin, il y a vraiment énormément, toutes les personnes que j'ai rencontrées pratiquement ont posé cette question-là. Là j'ai fait un condensé, mais j'ai une demi-heure de micro-trottoir, et dans cette demi-heure, cette question revient régulièrement. Comment la famille intervient? Quel est le rôle des proches là-dedans?
Alors, très riche ces micro-trottoirs, et je vais prendre quand même un petit peu de temps pour répondre à ce qu'on vient d'entendre. Mm-hmm. Et je vais aller, c'est bien parce que je vais revenir en fait sur ce qu'ils ont dit. Je vais répondre rapidement. Je suis un ancien alcoolo-dépendant et je vivais effectivement avec un taux d'alcool dans le sang de 3,40 g minimum dans le sang. C'était mon taux d'alcool qui me permettait de bouger et d'être vivant. Donc 3,40 g, c'est un taux d'alcool qui, aux yeux de Monsieur Tout-le-Monde, est un taux élevé. Mais je rappelle que le principe des addictions, c'est que le corps s'habitue aux toxiques et que à chaque intoxication, le principe, il est que c'est toujours un petit peu plus.
Un peu voilà. Plus à chaque fois.
Et donc, en fait, c'est 3,40 g sur 7-8 ans d'alcoolisme chronique. Donc, chronique, la pathologie chronique, c'est celle qui est à l'issue, trouve une issue mortelle ou en tout cas des rechutes régulières. Ça répond à une des questions. La rechute fait partie du soin. C'est ça qu'on dit en addictologie. Je vais le dire avec mes mots, impossible d'arrêter l'alcool sans rechuter.
Ouais, donc, ça fait partie du parcours.
Ma phrase à moi qui accompagne les gens, c'est de dire aux gens, quand tu es dans l'alcool et que tu es dans les addictos, de toute façon, dis-toi toujours que tu vas faire 10 pas en avant, 9 en arrière.
Et la réalité, j'ai souvent entendu dire ça.
La réalité, c'est que c'est un pas de gagné. Donc, il y a un leitmotiv qui est la patience. pour répondre à la question qui a été citée, j'ai oublié les prénoms parce que j'écoute en direct, ça me permet de réagir, mais c'est la détermination, l'éducation et mon courage qui m'ont permis de vaincre la maladie.
C'est la première.
Et du coup, il y a cette femme que je remercie, elle m'a donné des frissons en disant juste waouh, bravo, ça va avec le thème de ton émission, c'est ça, effectivement, c'est être un peu extraordinaire, effectivement, de se sortir de cette pathologie. Moi, je voudrais que ça devienne ordinaire de se sortir de cette pathologie. Des clés pour s'en sortir, il y en a. Et je répondrai du coup à la première jeune femme là, qui est super intéressante dans son questionnement. Effectivement, l'alcool, c'est vraiment... en enfer, c'est le chétan, quoi, hein, c'est la pire. C'est celle qui permet de penser tous les mots et d'effectivement venir soulager un certain nombre de problématiques, etc., etc. Ouais, du coup, bah, je vais répondre aux trois cuistots qui posent vraiment plein de questions, mais j'ai remplacé évidemment mon temps, et effectivement, et c'est très drôle parce que comme on s'est jamais parlé avec ces bonhommes-là, bah, je faisais le même métier qu'eux, et effectivement, j'ai remplacé par le sport, j'ai remplacé par de la relation, j'ai effectivement remplacé tout ça par prendre soin de l'autre plutôt que de maltraiter le mien de corps. Du coup, je rebondis quand même parce qu'il y avait pas mal de questions, et je vais aller à l'interview de cette première jeune femme-là que j'ai trouvé vraiment mais passionnant, c'est incroyable, les micro-trottoirs que tu fais, ils sont géniaux, et je vais t'accompagner dans la rue pour aller avec ces gens et répondre aux questions. Donc qu'est-ce qu'il a fait que je me suis décidé? Elle a raison, en fait, c'est une épée Damoclès qui m'a fait qui forcément a forcé le déclic. C'est souvent comme ça, malheureusement, c'est un peu le système punitif, et la réalité, c'est que quand je me suis présenté, j'ai été faire un petit tour derrière les barreaux, et l'emprisonnement, c'est quelque chose qui est puissant, mais finalement l'addiction, c'est plus puissant que d'être derrière des barreaux. Et la réalité, c'est que j'ai dû me présenter au tribunal le 12 décembre 2016, et ce matin-là, c'est un lundi, clairement j'allais au tribunal pour être sanctionné de 2 ans de prison ferme, notamment à cause de l'alcool. Ça m'a obligé, donc j'ai bien dit 12 décembre 2016, ça m'a obligé, en fait, en attendant le jugement, de trouver des outils pour essayer d'échapper à cette sanction lourde. Et c'est la prison, clairement, qui fait que, quelque part, je me suis bougé mon cul. Mais ce qui est important de souligner pour les auditeurs, c'est que c'est effectivement, on parle de déclic, c'est ça qui va, et j'adore ce terme, permettre la décision d'arrêter de consommer le produit. Sauf que ce n'est pas une mince affaire, ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme tu disais, ouais. Là, Mel, au début de l'émission. Donc, j'ai répondu à la systémie... Il y a quelqu'un qui a utilisé ce mot-là aussi dans les interviews, c'est une vraie systémie, c'est-à-dire qu'il faut prendre conscience que la rechute fait partie du processus, parce qu'on ne divorce pas de ce produit comme ça, et ces rechutes, à un moment, m'ont permis d'être un autre moi, c'est-à-dire celui qui est abstinent, en tout cas le temps d'un instant, et d'être en phase avec les gens. Et en début d'interview, tu me demandais si j'ai rencontré des petites étoiles, mais la réalité, c'est que j'ai rencontré moi une psychiatre qui est devenue quelqu'un de très cher pour moi. Hein. J'ai parlé de substitution à la famille parce que pour répondre voilà, aux trois cuistots, j'ai tout perdu. Moi, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, aujourd'hui, j'ai plus personne. Et du coup, cette personne m'a aidé, évidemment, avec les autres et d'autres personnes auxquelles je me suis attaché. Et en fait, il y a un outil qui m'a permis vraiment de... Ça m'émeut d'en parler, qui m'a vraiment permis d'aller au bout de cette abstinence définitive. C'est que c'est la seule personne qui prenait soin de moi, cette femme. Voilà, ouais. Vraiment. Et en fait, je l'ai regardée dans les yeux. Elle me disait tout le temps, je l'ai entendu là dans les interviews, la vie est belle, c'est celle qui me félicitait pour mon parcours.
Oui, celle qui te félicite.
Et en fait, ma psychiatre, que je nommerai comme ça, mais elle a un prénom qui m'est cher, me disait tout le temps, je te promets, la vie est belle. Et, et j'y croyais pas, en fait. Donc, la vie est belle, la vie est belle. Je lui ai dit, bah écoute, c'est un an d'abstinence pour aller voir si la vie est belle. Bah écoute, ouais. Je te promets, je vais aller voir si la vie est belle. Mmh. Et en fait, la réalité, c'est que au quotidien, j'étais obligé de respecter cette promesse. Donc, ça a été ça, mon vrai outil pour arrêter. C'est que j'ai fait la promesse à la personne qui était la plus chère pour moi à ce moment-là, ouais. D'arrêter, donc de ne pas rejeter. Et en fait, je m'étais mis en faisant cette promesse, pas hâtivement, mais un peu dans le même mode de fonctionnement qu'est le mien, c'est-à-dire d'être souvent rapide dans ma décision. Mais en vrai, si je respectais pas cette promesse, mais peut-être que je perdais la dernière personne qui prendrait soin de moi dans ma vie, quoi.
Et qui était à tes côtés.
Donc ça, voilà, ça doit répondre à cette question de manière un petit peu claire. Et est-ce que j'ai des proches ? Je viens de le dire. Hein. Moi, j'ai tout perdu. Je l'ai dit dans des émissions précédentes. Dans quelle que soit la famille, il y a une personne qui l'a jamais. L'autre, c'est la mère. Ne lâche jamais son petit. Ça, c'est instinctif, c'est animal. La mienne ne m'a pas lâché, mais la mienne n'a rien compris. Et c'est dommageable, parce que ça, c'est le message qu'il faut passer aux gens qui nous écoutent, c'est que les proches de ces personnes sont importantes. Et il ne faut pas lâcher vos proches, parce que derrière, et j'y viendrai dans les émissions, dans la dernière émission, de la dixième, en tout cas pour ce cycle-là, c'est l'abstinence. Mais l'abstinence et la reconstruction sans famille, c'est compliqué. Et mon plus gros soutien dans ce parcours, ça a été la salle de jeu. Et la salle de jeu, je la décris vite fait, mais ça va être une émission avec Mel dans sa globalité. On est en train de travailler dessus. Mais la salle de jeu, en fait, c'est une fois que je suis sorti du parcours de soins avec hébergement, je me suis inventé une prise en charge au quotidien, une forme d'hospitalisation en ambulatoire. Et en réalité, j'allais tous les jours et après, avec le temps, quand ça n'allait pas, j'allais dans la salle de jeu d'une clinique, d'un centre de soins. Et dans cette clinique, je m'étais construit une autorisation d'entrée avec les autres malades, qui étaient aussi des malades d'alcool. Et j'allais à la salle de jeu et en fait, je partageais du temps avec eux. Le principe était très simple, c'est que moi, je me retrouvais avec des gens qui étaient des semblables. Et pour eux, j'étais une source d'inspiration pour l'arrêt de l'alcool.
Ouais.
Voilà, donc ça a été un de mes outils principaux. Et voilà. Et en fait, j'ai adoré ce micro-trottoir. Je le réécouterai. Je reviendrai vers toi, Mel, pour répondre plus précisément, je pense, à des questions qui ont été posées. Et j'aimerais bien, moi, que les auditeurs se manifestent.
Pour poser des questions aussi ?
Ouais, et puis continuer, parce que le projet va continuer derrière ça. Et là, pour l'instant, j'ai bien envie d'écouter une petite chanson par rapport à ce micro-trottoir.
Antoine, il va nous trouver ça, il va balancer ça sans problème.
Et ben voilà, le choix est fait.
Allez, c'est parti.
Thank you.
Alors, tu en es sur la famille. Tu nous disais que toi, c'est ta maman qui était à côté de toi, parce qu'une maman, ça lâche pas son petit. Comment sont accueillies les familles en post-cure? Est-ce qu'elles sont accompagnées dans le parcours de soins d'un malade d'alcool?
Alors, ma mère m'a jamais suivi. Hein. Ma mère a été présente comme elle a pu, ouais. Mais elle n'a pas su. Donc, elle n'était pas présente. Elle ouais. m'a juste répondu. Elle a répondu présente à sa posture de maman.
D'accord.
Elle n'a pas été présente dans mon parcours de soins, très peu.
Ok.
Et pour être tout à fait honnête avec toi, tout simplement, elle a fait le taxi, par exemple, pour m'emmener de mon appartement à Gigean, à la post-cure de Toulouse, okay. à Montauban. Et voilà. Et pour l'anecdote, à la fin de la post-cure, quand je l'ai regardée en sortant de la post-cure, je lui ai dit « J'ai un an, je sais marcher et maintenant il va falloir m'aider à trouver mon chemin. » Tu vois, le petit enfant qui
ouais,
a un an.
Tout à fait, voilà. Qui apprend à marcher.
Et à partir de là, elle m'a aidé à rentrer à mon appartement. Puis là, tu vois, je l'ai revu il y a quelques jours. Je ne l'avais pas vu depuis le décès de mon père il y a des années. Donc bon, le lien est malheureusement rompu à cause de la pathologie. Hein.
Oui,
donc,
c'est ça.
Donc voilà, les conséquences à ce niveau-là sont dramatiques. Je peux pas répondre à cette question de manière cloisonnée. C'est-à-dire oui. que, en fait, ce que les auditeurs doivent entendre comme réponse, c'est que les familles sont libres d'accompagner les gens qui sont malades. Et moi, mon père est décédé du cancer des poumons et j'ai vu, donc c'est une pathologie chronique, il était hospitalisé, il avait régulièrement le cancer,
les rayons, la chimio. Voilà. Oui.
Merci, j'avais perdu le mot.
Oui.
Donc mon père a eu un parcours de soins normal. Il s'est battu comme un lion, donc génétiquement j'ai dû hériter d'un certain nombre de choses. Et quand il était dans le soin, toute la famille était à son chevet.
Oui.
Toute la famille était à son chevet. C'est une pathologie chronique dont on décède. Mmh. L'alcoolisme est une pathologie chronique dont on décède.
Tout à fait.
Je n'avais personne à mon chevet. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que quand ton proche est atteint du cancer, tu vas pleurer tous les jours à l'hôpital à son chevet, alors que quand ton proche est dans l'alcoolisme, il est dans son lit tout seul, dégueulasse, parce qu'il ne s'est pas lavé depuis 3 jours.
Ouais, on l'a vu sur le regard qu'on pose là-dessus.
Ouais, mais tout simplement, et il ne faut pas enlever, il faut rendre à César ce qui appartient à César, les alcooliques nous emmerdent au quotidien. Mmh. Voilà, ils font chier, il y a toujours un problème, le problème n'est jamais résolu, il tourne en boucle, j'ai été comme ça, j'ai eu mes problématiques, je les ai comprises, et c'est ça que les proches doivent entendre, c'est que la famille peut venir... elles se remettent en question sur la position et la place qu'elles ont dans le schéma et la construction de l'individu qui est atteint
Tout
de la
fait.
Pathologie chronique. Mmh. Parce que cette pathologie chronique, je l'ai dit dans les émissions précédentes, est le fruit d'une sociogénèse. Mmh. La sociogénèse, c'est-à-dire un mal-être en société, grosso modo, et une position familiale et une position sociale qui est compliquée, dans lesquelles il y a eu des carences, des manquements, où il y a une position qui est compliquée pour grandir et se construire à la fois psychologiquement, mais moralement, de construire son éthique, de savoir qui on est, etc. etc. Et ça, aujourd'hui, c'est mon positionnement. Je rappelle toujours qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qu'on connaît très mal. C'est mon expertise, c'est ce que moi, je conclue de l'expérience qui est la mienne et de mon parcours. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans les addictions, et notamment l'alcool, puisque de toute façon, c'est par celle-là qu'on finit, eh ben les gens ont des carences sociales et familiales. Donc il faut à un moment juste essayer de percuter l'esprit des gens et dire peut-être que dans le schéma familial de chacun, dans le schéma familial de ton pote à côté là qui est alcoolique ou de ton frère ou de ta sœur, mais peut-être que il n'est pas responsable lui des manquements qu'il y a eu dans son éducation, dans sa jeunesse, dans son apprentissage de vie ou dans les chocs émotionnels qui sont subis. Et des sources, la mienne n'est pas une vérité, elle est juste une parmi les autres. Elle est respectable ou pas, chacun l'entendra ou pas, mais en tout cas, c'est une réflexion aujourd'hui que je pose avec des gens qui sont quand même des professionnels en addicto, dont le docteur Possos que tu as rencontré, et pas des moindres, qui plus est. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, l'OMS avait classé cette maladie comme un trouble du comportement, et aujourd'hui, on est en train quand même de réviser nos copies et en disant qu'effectivement, il y a un comportement qui est lié aux consommations. Les consommations de toxiques amènent des comportements avec des conduites à risque, etc. Et c'est ça qui fait qu'on détruit le lien familial, on détruit le lien social. Et cette pathologie, eh ben, c'est la reine pour ça. Et tu te retrouves, et on en a déjà parlé, avec la solitude. Voilà. Et quand tu es seul, ben, derrière, il va falloir te reconstruire. Et ça sera le titre de notre 10e émission. C'est la résilience, c'est la reconstruction qui est la mienne. Et on peut entendre à travers notre échange pendant les émissions précédentes que les gens qui nous écoutent vont bien comprendre que déjà, il va se passer de l'eau du temps et il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts avant de parler de comment on se reconstruit. Et la post-cure, puisque c'est quand même le sujet normalement, c'est la dernière étape.
Émission, oui, la dernière étape.
La dernière étape dans le parcours de soins. Tu vas faire une post-cure. On l'a entendu dans le témoignage de cette femme-là qui travaille, qui est barmaid.
Qui est barmaid et qui a justement voit des gens partir en post-cure et repartir en post-cure.
Exactement.
Et qui font ça souvent.
Et en fait, il faut. La chimio, on en fait souvent. En
ouais,
fait.
C'est ça.
Moi, mon père de la chimio, il a fait pendant 3 ans. Donc, il y a un moment, on peut accepter que la pathologie, elle est puissante.
Et qu'elle prenne du temps.
Exactement.
Qu'elle prenne son temps.
On s'en sort pas comme ça. Ouais. Donc, il faut être proche. Il faut. Et finalement, c'est pas celui qui est malade qui doit faire l'effort. C'est la famille qui doit faire l'effort vers celui qui est malade. Et ça, c'est ce que moi je voudrais qu'on change. C'est ça que je voudrais. C'est là où je voudrais alerter dans mon témoignage. Parce qu'aujourd'hui, étant fait partie, les gens me voient évoluer. Les trois custos, ils me demandaient. Aujourd'hui, je suis entraîneur de foot.
Oui, c'est ça.
J'ai deux équipes complètes de jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Une autre où tous les gamins ont moins de 15 ans. J'ai 40 enfants à charge. Je suis dans un club aujourd'hui qui tourne à 1100 licenciés. Et quand t'es un personnage qui fait partie d'une équipe éducative, t'es en lien avec plein de familles. Et ça répond à une des questions d'ailleurs qui a été posée. Est-ce que j'assume ou non le fait
d'avoir été malade et d'avoir été alcoolique,
d'être toujours malade et d'être alcoolodépendant au niveau neurologique? Je l'assume de plus en plus, mais elle est hyper fine cette question, parce que quand j'ai attaqué ma reconstruction, je suis passé par l'étape de l'IFME dans lequel j'ai validé mon diplôme d'éduc. Quand on m'a demandé pourquoi j'étais là, j'ai pas répondu parce que je suis un ancien alcoolique et que je veux travailler dans le soin et accompagner les personnes qui sont atteintes de la pathologie alcoolodépendance.
T'as pas tout de suite dit ton projet?
Bah carrément pas. Et ça sera intéressant qu'on en discute avec Claire, parce que je ferai une dédicace à Claire à ce niveau-là, et elle t'expliquera un petit peu le parcours que j'ai eu à l'IFME. Mais on n'arrive pas en assumant d'être un alcoolique.
Non.
Voilà. Par contre, ça c'était.
C'est compliqué. Hein.
C'est 2015, début de la résilience. On est en 2026, ça fait 11 ans résolu. Et l'IFME, c'était 2020. C'est-à-dire que 5 ans après, je n'assumais pas forcément d'être un ancien alcoolique. Par contre, aujourd'hui, et ce que je suis en train de vivre en ce moment, cet été, va m'aider à porter cette casquette, j'ai envie de dire quasiment au quotidien, parce que c'est bien, j'ai vraiment sublimé, pour ceux qui connaissent la définition littéraire de ce mot, j'ai sublimé le mal, et aujourd'hui finalement c'est devenu mon moteur pour le quotidien. C'est justement parce que je suis un ancien alcoolique que je suis animé, c'est maintenant que je commence à vivre, c'est maintenant que je croque la vie à pleines dents à tous les étages, et que,
tu goûtes la joie du
ouais,
coup.
Et que je suis, voilà,
c'est ça.
Et c'est pareil, ça c'est une émission à elle toute seule, mais la joie, c'est devenu mon quotidien, la joie.
C'est devenu ta cam.
C'est devenu ma cam,
mais c'est
exactement.
Ça, t'as remplacé l'alcool par la joie.
C'est ça.
Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le choix ou sur la proposition qu'on fait aux familles d'être reçues et de comprendre le malade, la maladie, au moins de la comprendre. Je fais aussi rebond sur le monde extérieur où au début, tu n'assumes pas forcément et tu dis pas forcément que tu es un ancien alcoolique. Et tout ça, ça fait partie vraiment de la compréhension de la pathologie, de la compréhension que ça soit de la part de la famille, de la part des proches et de la part de la société finalement, en fait.
Ouais, alors aujourd'hui on est en 2026 et je pense que les réponses à cette question vont vite arriver parce que avec les médias, avec les réseaux sociaux, avec tout ça là, avec la radio aujourd'hui, avec des expertises, avec la facilité à communiquer dans le monde, je pense que on va pouvoir répondre très rapidement que les familles sont accueillies en addicto, que alors je sais comment répondre à ta question. En fait, on va partir d'une hypothèse. On va partir de l'hypothèse que la famille souhaite accompagner le malade.
Ah, c'est intéressant comme point de vue du coup.
Mais c'est pas un point de vue, c'est qu'aujourd'hui, le malade, lui, il demande que ça, avoir sa famille autour de lui.
Oui.
Par contre, on n'a pas les familles qui viennent dans les centres d'addictos. C'est extraordinairement rare de voir la famille d'un mec dans un service d'addicto.
Qui se déplace, d'accord.
Oui, parce que déjà, d'aller voir ton piccolo, ça fait chier, il est à l'abri là-bas, et puis de toute façon, il est bien. Pendant qu'il est là-bas, on n'a pas envie de le voir, on le voit pas.
Ouais, il est planqué.
Et puis, en plus, quand tu vas le voir, il est avec plein de copains piccolo. Donc, t'es dans une ambiance qui est un peu bizarre, tu vois.
Oui, je vois.
Voilà, et j'en profite pour faire un petit lien. Dans, il n'y a pas beaucoup de maladies psychiatriques chez les alcoolo-dépendants.
D'accord.
Or, on peut commencer par là, peut-être, déjà. Enfin, ça peut être une approche pour les familles. C'est que on fait de l'addictologie dans les centres psychiatriques alors qu'il n'y a pas de pathologie psychiatrique.
D'accord.
Donc, peut-être que là, on peut réveiller plein de monde et essayer, effectivement, parce que c'est ça mon moteur aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter des solutions dans le soin. Et peut-être que déjà, on devrait regarder les gens non pas comme des fous, hein, vulgairement, ou comme des gens atteints d'une pathologie psychiatrique, mais tout simplement par des gens qui ont pensé des carences, pensé des troubles, des manquements affectifs. Il y a une grosse part de responsabilité dans l'éducation qui a été reçue. Et aujourd'hui, le gars qui est atteint d'alcoolisme, c'est pas un hasard. Voilà. Ouais. On ne tombe pas alcoolique parce qu'on est le mauvais numéro. Quoi. Ouais. Un cancer du poumon, aujourd'hui, quand même, on sait que c'est les mecs qui fument. Quoi.
Oui, que la cigarette, que le tabac est quand même responsable.
Il y a un moment, moi, j'ai pas envie d'être le relou des gens qui nous écoutent en nous faisant croire ou en essayant de faire croire que la vie, c'est pas toxique. Je suis le premier, là, à l'assumer et dire je fumerais bien un petit pétard pour me détendre. Je boirais bien un bon petit vin de la cave oubliée. Il y a plein de choses que j'aimerais avoir en mode plaisir. Mm. Mais le problème, c'est que tout c'est toxique. Ah, j'ai envie d'être vulgaire. Je suis à la radio. Je vais pas l'être. Mais c'est c'est pas petits bonhommes quoi. Tu vois tous ces mecs là.
Okay.
Tu vois le verre d'alcool que tu bois avec plaisir. Mais il faut mettre dans sa balance, il faut mettre ce que c'est que la réalité du plaisir et la réalité du mal que c'est en train de faire à ton corps. Voilà. Mmh. Et je suis pour que les gens se fassent plaisir, j'aime faire la fête, j'ai construit ma carrière professionnelle au départ autour de l'hôtellerie-restauration.
Mais tout à fait.
Parce qu'on y mange des toxiques, parce qu'on bouffe des toxiques, parce qu'on boit du toxique. Parce
et que c'est bon.
On respire le toxique et le toxique, c'est bon, il y a une belle facette.
Bon. Mais bien sûr.
Mais par contre, une fois qu'il t'attrape et qu'il t'a choisi, comme le cancer, hein. Tu peux fumer ta clope et te trouver beau. Moi, les gens qui fument, maintenant, je peux plus. Mais avant que tu aies fumé autant de cigarettes et de joints que j'ai fumé, il va falloir que tu fumes quand même, tu vois. Mais non, en fait. Et c'est ça, c'est pour ça que je parle d'échelle temps. C'est que le vrai mécanisme de soin aujourd'hui, c'est la prévention. C'est les gens qui sont dedans, on peut les aider. Il y a des sources, il y a des clés.
C'est l'information aussi.
Et la famille est le moteur essentiel pour se soigner. C'est d'être toujours accompagné. C'est d'avoir des gens qui t'aiment, tout simplement. C'est de pas être tout seul comme un con dans ton coin. Et en fait, plus t'es tout seul et plus tu finis seul. Et pour avoir œuvré au SAMU social au 115, et c'est pas un hasard que je sois allé travailler au 115, c'est parce que j'avais envie d'accompagner des gens qui sont dans cette détresse et d'essayer de les aider. Et ça, c'était au début de mon abstinence totale, puisque c'était dans les années entre 2019 et 2023. Et, Et en fait, putain que c'est dur de s'en sortir.
Ouais,
et c'est pas pour rien que j'en parle avec toi aujourd'hui. C'est parce que le chemin est dur. Mais le chemin, il est dur que si on n'écoute pas les gens qui sont concernés. Il faut les écouter. Les écouter, c'est pas une séance chez le psychologue une fois tous les 15 jours.
Non, c'est réellement...
Les écouter, c'est être au quotidien
être
avec
là,
eux.
Et
le mec, quand il attaque, c'est ce que je suis
c'est
en train...
accompagner, c'est partager
c'est
accompagner, son pain avec.
Exactement.
C'est la définition que je donnais à l'émission précédente. C'est réellement partager son pain avec et trouver un professionnel qui partage réellement son pain avec toi.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
C'est super important parce que dans ton parcours, c'est vraiment ça. Quand
c'est
je parlais
ça,
de petites étoiles, quand je t'écoute, c'est vraiment ça qu'a jalonné ton parcours. Il y a une question aussi qui passe, cette première dame qui parle, elle est très pertinente, effectivement.
Incroyable.
Et on sent qu'elle a vécu ça, on sent qu'elle parle avec émotion, et elle demande, est-ce qu'il y a des choses à éviter quand on est accompagnant? Parce que je la sens un peu démunie, peut-être qu'elle a connu ça dans son parcours, elle aussi, et elle demande, est-ce que quand on accompagne quelqu'un malade d'OH, il y a des choses à éviter? Comment on peut faire?
Ouais, la question, je vais être partisan de ton hypothèse, c'est-à-dire que j'ai oublié son prénom.
Elle ne le dit pas,
elle
c'est la petite
pas,
fille.
Voilà.
C'est la petite fille.
Bon, bah, ah oui, c'est la petite
oui,
fille.
Oui, c'est la petite fille chérie de son grand-père.
Voilà, c'est ça. Eh bien, en fait, c'est marrant, toi tu me connais un petit peu maintenant, j'ai un respect immense pour l'enfant en général. Mm. Et effectivement, voilà, quand tu es un enfant, tu poses des putains de questions pertinentes. La réponse est très simple. Tu ne peux rien faire de négatif quand tu accompagnes quelqu'un. À partir du moment où tu y mets une bonne volonté, tu vas faire des erreurs. Mais les erreurs que tu fais ou l'erreur que tu vas faire, il n'y a pas de choses à éviter, en fait. C'est une relation.
Ouais.
Et la relation, elle est... j'ai presque envie de parler d'une relation à trois, alors... Je pense que l'auditeur, d'une manière générale, est capable de comprendre ce que je montrerai plus facilement avec mon Velleda et des stylos. Mais t'as la personne qui est malade, t'as la personne qui est à côté d'elle et qui partage le pain avec elle.
Ouais.
Et cette personne qui est malade, en réalité, elle est deux personnes en même temps. Elle est la personne sous toxique et elle est la personne sans toxique. Et l'accompagnant, cette petite fille, elle voit les deux. Mmh. Et la réalité, la force de celui qui accompagne, c'est d'être capable de jouer, tu vois, c'est marrant.
Oui, c'est ça, de jouer.
De partager, de partager avec les deux. Et en fait, je crois que la grande force de celui qui accompagne, mais qui est affecté par la pathologie, le proche, donc l'enfant, la grand-mère, le mari, le cousin, celui que vous voulez... En fait, il faut être capable de cibler ces deux personnages-là, celui qui est sous toxique et celui qui ne l'est pas.
Mmh.
Et la réalité, c'est que c'est au moment où celui qui est toxico consomme son produit et qu'il est dans cet effet apaisant, c'est à ce moment-là que l'écoute est la plus facile.
D'accord.
Et en fait, chez un alcoolique, c'est un moment qui est très court. Voilà, c'est un moment qui est très très court parce que l'alcool est un produit qui est extraordinaire et comme beaucoup de toxiques d'ailleurs, il s'absorbe et l'effet peut être très rapide parce que avant même d'avoir consommé le produit, c'est comme avec les autres toxiques, tu peux, t'as déjà l'effet.
Voilà, qui arrive, c'est-à-dire que juste en y pensant,
c'est ça.
Rien
que d'avoir le produit dans la main, les gens qui sont atteints de, enfin, qui consomment des toxiques,
l'apaisement se fait.
Ouais, on sait déjà que avant de consommer, là-haut dans notre cerveau, on arrive à construire, à fabriquer ce qui nous met bien. Donc en fait, dès qu'il y a la présence du toxique ou dès qu'il y a les premiers effets bénéfiques du toxique, à ce moment-là, l'échange est le plus facile.
D'accord, c'est à ce moment-là qu'il faut choper...
Et c'est là où la frustration du malade, du toxico, c'est là où la frustration est la plus basse.
Ok.
C'est le moment où il va être le plus à même d'entendre et d'accepter le mauvais mot, la mauvaise posture, le mauvais geste de l'autre.
La petite, pas l'erreur, mais la maladresse.
parce que c'est jamais...
Alors, c'est pas une erreur, c'est pas une maladresse. D'accord. C'est ce qui va être mal accueilli par le toxique.
Ok. Ouais,
par le toxico.
C'est important de le préciser.
Voilà. Fait. Et en fait, ça a été une de mes armes au SAMU social. C'est-à-dire D'accord. qu'en fait, à partir du moment où tu es dans le pic de la consommation, le pic et un peu plus, là, ça ne sert à rien de discuter, il n'y a rien qui passera.
D'accord.
Quand tu es dans la rechute, dans la redescente, et d'ailleurs, ça me fait penser, je crois que tu avais une question sur le delirium tremens.
Oui,
si
après
tu veux,
on en parlera.
Mais du coup, dans la redescente, il y a...
là, c'est trop de frustration.
Ouais, l'écoute est compliquée. Ouais. Et c'est surtout que le principe même du toxicomane, c'est qu'à partir du moment où il est en rechute, en redescente et... qu'il a l'œil sur son stock, la seule chose qui va l'omnibuler,
c'est
est-ce que j'ai le toxique, est-ce que j'en ai assez et est-ce qu'il m'en faut.
C'est le gestionnaire,
qui
va
se réveille.
Là, en fait.
Exactement. Donc, du coup, ce laps de temps, c'est pareil, tu peux pas discuter. Par contre, le moment où il va y avoir la prise et qu'il y a un soulagement, un apaisement et que le produit est consommé et qu'il ne fausse pas la réflexion encore existante de l'individu, à ce moment-là,
on peut
le dialogue va être le plus constructif possible.
D'accord.
Voilà. Et en fait, ne demande pas à un alcoolique ou un toxicomane d'être attentif alors qu'il n'a pas son produit.
Ouais,
tout
à fait.
Tu n'y arriveras pas.
C'est du non-sens total.
Donc, il faut être avec les personnes, il faut les accompagner, il faut être présent et il faut être à l'écoute.
C'est important de l'entendre parce que des fois, on se sent démuni quand même en tant que
Mais, il faut savoir qu'on est souvent démuni parce qu'on veut bien faire dans son idéal, mais que l'idéal de celui qu'on accompagne, c'est pas nécessairement
c'est pas
le même.
Voilà,
moi, j'ai jamais vu un mec qui était dans un lit d'hôpital qui avait le cancer, qui pensait à autre chose que de ne plus avoir le cancer. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, un toxicomane, c'est pareil en vrai.
On rebondit sur le delirium tremens, puisque les trois cuistots en parlent. Lui, il le dit comme une maladie, mais ça n'en est pas une.
Non, pas du tout.
C'est vraiment, j'ai regardé un peu la définition, c'est une réaction neurologique.
Oui, complètement. Alors, je vais pas non plus rentrer dans des détails scientifiques, biologiques même, enfin en tout cas de construction physique, en détail, parce que je voudrais pas dire... de bêtises d'une part, et d'autre part, c'est pas très important de comprendre réellement ce qui se passe. Je vais vous donner, moi, l'expérience que j'ai vécue. C'était en post-cure, donc j'étais abstinent de produits depuis, je dirais bien 15 jours, un truc comme ça. Et en fait, je me suis retrouvé, tout allait bien, et je me suis retrouvé dans le couloir du château de Longzeg à Montauban, au premier étage. Et en fait, à partir de ce moment-là, alors qu'il n'y avait rien de spécial, dans ma tête, dans mon esprit, dans ma façon de réfléchir, dans ce que je ne maîtrisais pas, dans mon conscient, inconscient là-haut, j'ai commencé à voir le sol qui m'attirait, à voir les arbres bouger.
Ok, donc des hallucinations.
Pareil, je veux faire attention à mes propos. Je sais pas si c'est des hallucinations, mais c'est comme ça qu'on pourrait le décrire si on était dans un dessin animé. Mais voilà, les choses se mettent à bouger un peu bizarre. Et en fait, les personnes, les autres.
Oui, les autres résidents.
Ouais, n'importe qui, voilà, les autres hommes avec un grand H, là, qui sont dans ton environnement, ils prennent des formes bizarres avec des têtes animalières.
Ok.
Voilà, donc les insectes, etc. Et donc, en fait, au lieu de voir quelqu'un, tu vois une araignée. Alors, je ferai un raccourci en disant que je pense qu'on a l'esprit qui se remet à un état très, très primaire animal, tu vois.
D'accord.
Et en fait, dans la situation qui a été la mienne, en fait, je me suis vu partir dans un délire comme ça, alors que j'étais dans une matinée banale du château de Longzeg. Et j'ai senti une espèce de force qui m'appelait vers la défenestration.
Oh.
Et en fait, j'ai eu peur parce que j'étais conscient quand même. J'étais bien, j'étais dans un état normal en fait. Mmh. Et d'un coup, t'as l'esprit qui vrille, quoi, hein, tout simplement. Et en fait, j'ai eu peur de me défenestrer.
Oh,
et donc, j'ai eu la lucidité de descendre par les escaliers en étant en train de délirer.
Oh.
et de me mettre au sol en fait. Et là, j'ai appelé ma psychiatre de l'époque qui était dispo pour moi, quel que soit le moment. Et je sais pas, je me rappelle pas du détail, mais du coup, le fait de parler avec elle, etc., ça s'est apaisé. Et je suis allé en infirmerie. On m'a donné sans doute un truc du genre sédatif pour m'apaiser. Mm-hmm. Et puis voilà, c'est passé. Ça, j'en ai pas fait beaucoup. Moi, j'ai de la chance. Mm-hmm. Et voilà, le delirium tremens, c'est on peut dire tu délires un peu dans ta tête.
C'est très grave hein, quand je vois, effectivement, quand je suis allée voir un peu ce que c'était, c'est une conséquence neurologique grave du sevrage alcoolique.
Ouais.
Il se traduit par un état confusionnel et délirant.
Ouais.
Et c'est précisé quand même qu'il peut entraîner le décès de la personne qui
le subit. C'est
violent.
C'est ultra violent. Moi, je le reprends avec mes mots et j'en parle de manière très ludique et très simple. Mais si vos proches... ou si celui qui consomme fait des delirium tremens, c'est qu'on est, dans des statuts d'état neurologique qui sont importants, on est dans des conséquences qui sont graves, parce qu'effectivement, le delirium tremens a une issue fatale, peut avoir une issue fatale, elle n'y est pas tout le temps, heureusement, et c'est surtout que le comportement, quand on est en train de le vivre, pousse à faire des choses complètement insensées. Voilà. Dans les expériences que moi, j'ai pu traverser et les propos, les témoignages de certains, le delirium tremens, enfin moi j'ai vu des gens me raconter des trucs qui paraissent complètement aberrants et complètement fous. Les gens qui sont atteints de delirium tremens en sont bien conscients, et à travers cette question, moi j'entends surtout est-ce que ce que moi j'ai vécu c'est un delirium tremens ? Rassurez-vous, les gens qui nous écoutent, si tu vis un delirium tremens, tu es au courant.
Ouais.
C'est
choquant.
Voilà, il faut pas se leurrer. Je me doute que le temps passe.
Oui, le temps passe. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On reparlera de la salle de jeu parce qu'elle a été très importante pour toi. Elle fait partie aussi de ton parcours d'abstinence. Donc vraiment, ce lien qu'on a fait, c'est chouette. Après le parcours d'enfer et de réhabilitation, la conclusion, c'est qu'on perd tout en fait. Voilà, hein. En tout cas, toi, t'as tout perdu.
On perd tout, mais on est joyeux.
Et on est joyeux, on est dans la joie. Donc, pour la prochaine fois, on verra. Tu nous expliqueras comment on peut faire quand on n'a plus rien dans la joie.
Voilà. En fait, pour mettre en appétit nos auditeurs,
oui.
J'ai concocté, je suis retombé sur un titre qui va forcément résonner dans les auditeurs qui sont nés entre 1970 et 1990.
Ouais.
Et il suffit d'écouter le texte.
Oui, on n'a pas besoin de dire ce que c'est.
Tout, non.
On reconnaîtra.
On balance le
générique de fin comme ça.
Fais quand même le minimum, s'il te plaît, obligatoire.
Oui, c'est de... Au revoir, Patrick.
Allez, salut, Mel.
Au revoir, Antoine. Merci
Antoine.
À toi.
Ciao, ciao.
Je m'appelle Rémi.
Et je me balade.
Avec tous mes amis.
Vitalis.
Et Dolce.
Joli cœur.
Servino.
Cathy et Rémi.
Joli paysage, ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade dans la vie. On a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures. Je m'appelle